France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Comme chaque premier lundi du mois, notre club actu vous guide dans le meilleur de la presse scientifique. En juin, que nous réservent nos passeurs de science préférés ? Parmi toutes les espèces humaines qui vivaient sur Terre, il n'en reste plus qu'une, la nôtre. Comment expliquer le succès évolutif d'Homo sapiens ? Puis, une grande énigme de la paléobotanique. Que sont les prototaxites ? Ni champignons ni lichens, ces organismes ont habité la Terre il y a 350 à 400 millions d'années. Ensuite, une technologie de la physique des particules rend désormais possible le transport de l'antimatière. Quel est donc cet exploit ? Et enfin, quand pourrons-nous raisonnablement espérer trouver des traces de vie extraterrestre ? Homo sapiens, prototaxite, antimatière, exobiologie, au clair de la lune. Et Mathilde Fontaise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique, rédactrice en chef du mensuel Epsilon. Olivier Lascar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du pôle numérique de Sciences à Avenir, notre magazine partenaire. Blaise Mao, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Ouzbek Erika. Et nous sommes en ligne avec Pierre Henriquet, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes médiateur scientifique indépendant, passionné d'espace et vous êtes plus connu sous le nom d'AstroPierre sur les réseaux sociaux. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct jusqu'à 17h et puis merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors on commence notre club actu avec Science et Avenir et cette question, pourquoi Homo sapiens est-il le seul du genre Homo à avoir échappé à l'extinction ?
Homo sapiens, évidemment, c'est une espèce qui nous est très familière. C'est la seule espèce humaine qui existe sur Terre aujourd'hui. Cette situation nous paraît tout à fait normale, si je peux dire. Les hommes se voient comme des créatures exceptionnelles, totalement souvent séparées du reste du monde vivant. En réalité, si on remonte pas très loin dans le temps, c'est-à-dire au-delà de 40 ou 50 000 ans, vous me direz c'est long, mais au regard des 7 millions d'années d'évolution des hominines, c'est hier. Mais en fait, le paysage est complètement différent, c'est-à-dire qu'on a plusieurs espèces d'hominines qui se partagent la planète. Et Homo sapiens, c'est une espèce parmi d'autres, et c'est une espèce africaine. Et donc, pendant plusieurs centaines de milliers d'années, elle va évoluer et finir par sortir d'Afrique, d'ailleurs, je dirais progressivement, en plusieurs étapes, et finalement remplacer, absorber tous ces autres groupes. Et c'est probablement l'événement le plus important au cours de l'évolution humaine, tout court peut-être, en tout cas du dernier million d'années. Et dans le fond, c'est peut-être la question la plus intéressante et la plus complexe à résoudre du pourquoi et du comment ce grand remplacement.
Voilà la voix de Jean-Jacques Hublin en 2022 dans les matins de France Culture. Le paléanthropologue est beaucoup cité dans ce dernier numéro de Science à Avenir, Olivier Lascar. Et vous mettez d'ailleurs dans ce dossier en lumière les 7 atouts qui ont fait le succès de notre espèce, hein, tout ce qui a favorisé ce parcours hors norme. Alors ça commence, premier atout, notre gros cerveau bien câblé. Et pourtant Néandertal avait un plus gros cerveau qu'Homo sapiens.
Oui, alors c'est effectivement le dossier de couverture de Science et Avenir qui est signé de nos journalistes Rachel Fléau et William Rove-Pira et dans lequel ils ont sérié ces 7 atouts qui font le succès d'Homo sapiens. Et cette comparaison que vous faites tout de suite, Natacha, avec Néandertal est intéressante à plusieurs égards, notamment parce que elle permet de dire d'ores et déjà que on n'a pas organisé une sorte de squid game entre les différents hominines, comme le dit Jean-Jacques Hublin. Les hominines, c'est les différents représentants du genre humain, leurs ancêtres et leurs parents fossiles, comme Toumaï, par exemple. Des espèces comme Néandertal, longtemps, ont été considérées comme... Néandertal, très particulièrement, une sorte de demeurée. On sait aujourd'hui que c'est pas du tout le cas, que c'était un humain qui était, par exemple, très apte à la chasse ou qui était très résistant aux hivers. Donc, chaque espèce avait des capacités très particulières et Homo sapiens n'a pas été le meilleur en tout. En revanche, il faut constater qu'on a tiré notre épingle du jeu. Et le premier atout, le premier argument, comme vous le disiez, il tient effectivement à la taille de notre cerveau. Enfin, je dis la taille, c'est pas tout à fait exact, puisque effectivement, Néandertal avait un cerveau plus gros que le nôtre.
C'est pas la taille, c'est sa forme.
C'est sa forme. À la naissance, les deux cerveaux ont une forme à peu près allongée, comparable. Mais durant la première année de vie, le cerveau du petit humain moderne va prendre une forme plus globulaire, avec un cerveau qui est rond. Et cela, ça provoque une sorte de reformatage des connexions neuronales à l'intérieur de notre encéphale qui va toucher en particulier deux zones du cerveau. Il y a le cervelet et il y a les zones pariétales. Et d'après les scientifiques qui sont interrogés dans ce dossier de Science et Avenir, dont Jean-Jacques Hublin, mais aussi Evelyne Neyer, par exemple,
Antoine Balzo, autre paléanthropologue qu'on entend souvent à ce micro. Enfin, il y a de grands noms, en effet, dans ce dossier, je vous laisse continuer.
Et il considère que ce recablage neuronal qui se passe après la naissance, post-natale, est à l'origine de cette caractéristique d'Homo sapiens à avoir développé sa créativité, son ingéniosité, son inventivité dans des proportions très importantes qui ont différentes conséquences, mais notamment l'une par rapport au langage. Homo sapiens a une aptitude particulière au langage et au phénomène dit de la double articulation, c'est-à-dire que les voyelles et les consonnes n'ont pas de signification en elles-mêmes, mais permettent de construire et d'articuler des mots et des phrases qui ont une infinité de sens. Et ça, cette caractéristique, elle est propre à Homo sapiens, même si, d'après les paléo-anthropologues, Néandertal avait lui aussi sans doute la capacité d'articuler les voyelles, mais sans doute pas avec un raffinement comme le nôtre.
En tout cas, ce cerveau globulaire, ce câblage neuronal si particulier à notre espèce, ça amène à ce second atout. Ce sont nos capacités d'abstraction et en témoignent justement les lions de la grotte Chauvet du Pont d'Arc il y a à peu près 36 000 ans, Olivier Lascar.
Oui,
ça aussi, ce qui est étonnant, c'est que nous ne sommes pas les seuls à avoir peint notre environnement.
Non, on n'est pas les seuls. Néandertal, encore une fois, ou Homo erectus, a laissé des gravures sur coquillages, ils ont peint des perles. Il y a certains ornements, notamment en Espagne, il y a encore des débats à ce propos, mais enfin, ils auraient pu être laissés par Néandertal, des ornements pariétaux. Mais avec une capacité, avec un tel degré d'abstraction qu'on peut le voir à Lascaux ou à Chauvet, les originaux des grottes ne sont pas accessibles au grand public, mais il y a des reproductions l'une et l'autre dans lesquelles des artistes contemporains ont reproduit à l'identique les lions, les taureaux, etc. de ces grottes. C'est absolument extraordinaire à voir. Et c'est que la caractéristique, là aussi, d'après les paléoanthropologues qui sont interrogés dans ce dossier, c'est la manifestation de cette capacité à l'abstraction qu'avaient nos ancêtres, cet art pariétal, c'est le vecteur d'une pensée symbolique, et c'est une façon de consigner les mythes et de les transmettre de génération en génération.
Troisième atout, d'ailleurs ça s'appuie sur une découverte très récente, une étude parue en janvier dans Scientific Reports. Troisième atout, ce sont nos groupes sanguins très diversifiés.
Oui, effectivement, ça c'est l'élément d'actualité le plus significatif dans ce dossier sur les sept atouts d'Homo sapiens. C'est cette incroyable floraison de groupes sanguins qui se passe à partir du moment où Homo sapiens fait sa sortie d'Afrique. Entre moins 60 000 et moins 45 000 ans, il se passe quelque chose dont les causes demeurent inconnues et qui est sans commune mesure avec les autres représentants du genre humain. Néandertal a un nombre très restreint de groupes sanguins. Et là, il se passe quelque chose au niveau du plateau perse, avec une multiplication des groupes sanguins parce que il semblerait que avoir des groupes sanguins diversifiés pourrait présenter des caractéristiques de résilience ou de résistance par rapport à certaines maladies comme le paludisme. De façon assez significative, on s'est rendu compte que ça demeure vrai aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'études, où il y a eu de nombreuses études autour du Covid récemment, qui ont montré que les populations n'étaient pas égales face à la menace Covid en fonction de leur groupe sanguin, avec parfois des conclusions un peu surprenantes, hein, parce que par exemple les groupes sanguins O seraient plus résistants au Covid, mais une fois qu'on l'a attrapé, disons que on ressent le Covid de façon moins intense, mais une fois qu'on l'a attrapé, on est plus susceptible d'avoir un Covid long, donc c'est pas non plus très binaire. Mais en tout cas, la multiplicité des groupes sanguins, c'est une arme contre les maladies, et c'est une arme qu'a pu fourbir Homo sapiens, et pas ses cousins, si je puis dire, hominines.
Et puis, même si le Covid, en effet, c'est plutôt le 21e siècle, et pas néolithique, on peut imaginer en effet que ces groupes sanguins et toute cette diversité, ça a permis à cette espèce de résister à des maladies survenues plus tard. Quatrième atout, il y a cette fécondité hors pair, là encore, Jean-Jacques Hublin est cité, notre espèce a connu un succès reproductif sans précédent dans l'histoire des humains.
Oui, là aussi, c'est quelque chose qu'on peut constater. Alors, il faut dire qu'il y a une science qui s'est développée assez récemment, à la fin des années 2010, et qui a valu à Svante Paabo, son inventeur, développeur, le prix Nobel en 2022, c'est la paléogénétique qui permet d'extirper des bouts d'ADN de vestiges extrêmement anciens, hein, des dents, des ossatures. On peut trouver des petites traces d'ADN et c'est grâce à ça qu'on peut retracer l'évolution d'une population. Donc effectivement, on se rend compte que du côté d'Homo sapiens, qui est apparu il y a 300 000 ans, hein, je crois que je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire, une estimation qui a été revue, qui a été creusé dans le temps assez récemment avec la découverte du fossile de Jebel Iroud au Maroc. Jusqu'à peu de temps encore, on pensait que c'était 200 000 ans, l'ancienneté d'Homo sapiens, c'est en fait 300 000 ans. Et donc, il y a eu une population qui est restée assez stagnante pendant longtemps. Jusqu'à il y a 60 000 ans, on était 20 millions d'Homo sapiens. Aujourd'hui, on est un peu plus de 8 milliards quand même. Donc, cette fécondité, elle a explosé le fait que le même phénomène ne se soit pas constaté chez Néandertal ou chez Denisova aussi, hein, qu'on n'a pas encore cité non plus, mais qui était contemporain, pourrait expliquer la diffusion d'Homo sapiens aux quatre coins de la planète.
La diffusion d'Homo sapiens aux quatre coins de la planète, et en effet cette expansion géographique et démographique forte rapide qui commence il y a environ 60 000 ans. Autre qualité, hein, cet Homo sapiens qui est un champion des réseaux sociaux, et ça, on voit ça, c'est très particulier à notre espèce, c'est ce qu'on appelle la culture cumulative.
Oui, là c'est Vinayer qui en parle dans notre dossier et qui pointe par exemple que dans le cadre des relations familiales, chez le chimpanzé, la mère chimpanzé s'occupe exclusivement de son petit. C'est pas le cas chez Homo sapiens, où l'évolution a fait aussi que l'enfance dure de plus en plus, a duré de plus en plus longtemps, il fallait que le cercle des parents, l'alloparité, soit de plus en plus étendue pour que les enfants soient épaulés par un cercle de plus en plus large. Et ça, c'est caractéristique également à Homo sapiens. C'est une façon de transmettre la culture au sens large, c'est-à-dire le partage des connaissances, y compris géographiques, hein, savoir qu'il faut aller s'installer dans un coin ou pas dans un autre. Le troc de biens, de denrées, autant de caractéristiques qui se sont développées avec sapiens.
Voilà, et puis on a en sixième évidemment la curiosité illimitée, et puis septième atout, celui qui me plaît beaucoup, c'est ce goût pour la migration et les métissages, Olivier Lascar.
Ouais, là aussi, là pour le coup, contre-exemple avec Néandertal, hein, puisque on a découvert assez récemment une nouvelle lignée de Néandertaliens en France, dans la Drôme, dans la grotte Mandrin, et on s'est rendu compte que c'est une lignée qui aurait vécu isolée il y a 60 000 ans, alors que des voisins vivaient à peine deux semaines de marche. Donc Néandertal, il n'avait pas le goût du croisement. Et c'est le contraire qui s'est passé avec Sapiens. Ce qui est intéressant d'un point de vue génétique, parce qu'en se mêlant aux autres, on accroît ses variations génétiques et ses capacités à résister aux agents pathogènes, mais même aux changements climatiques.
Et puis c'est selon, en effet, un autre paléanthropologue, Ludovic Slimek, selon lui, c'est ce qu'il aurait perdu, Néandertal,
voilà,
le fait qu'il ne se mélange pas.
Ouais, ouais.
Alors on continue de feuilleter la presse scientifique, on vous parle de paléo toujours, mais de paléo botanique et de l'une de ses plus grandes énigmes. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
En direct sur France Culture, on continue notre club actu avec Epsilon ce mois-ci qui se penche sur un mystère en paléobotanique, un organisme dont on ne sait pas s'il s'agit d'un champignon ou d'un lichen.
À l'aide d'un couteau, déterrons le pied d'un champignon de couche. Nous constatons que le pied est fixé à une sorte de chevelure formée de multiples filaments blancs enchevêtrés. Si l'on fouille le sol qui porte le champignon observé et les champignons voisins, on constate que cette chevelure souterraine s'étend sur plusieurs mètres carrés. On donne à cette chevelure le nom de tal filamenteux ou mycélium. Les observations grossières auxquelles nous venons de procéder risquent de nous induire en erreur. Nous risquons en effet de croire que ces filaments blancs répandus dans le sol constituent les racines du champignon, cependant que le pied en constituerait la tige. Eh bien, il ne faut pas croire cela, car si l'on observe au microscope des parcelles de filaments, de pieds, de chapeaux, de lamelles, on constate que tous ces éléments sont formés de cellules isolées, placées les unes à côté des autres, sans jamais constituer ces vaisseaux que l'on découvre, d'une part dans les plantes à fleurs ou phanérogames, et d'autre part dans certaines plantes sans fleurs, telles les fougères, que l'on appelle cryptogames vasculaires, cryptogame parce que ce sont des plantes sans fleurs et vasculaire parce qu'elles sont pourvues de vaisseaux.
Voilà, qu'est-ce qu'un champignon ? Un extrait de l'émission Collège des ondes sur la RDF en 1955. Alors Mathilde Fontaine, qu'est-ce qu'un prototaxite ? Moi je ne connaissais pas du tout avant d'ouvrir un epsilon. Que sont-ils ? Ils ressemblent à aucun organisme vivant connu, mais on peut essayer quand même de les décrire.
Oui, on peut essayer de les décrire. Il faut surtout essayer de les décrire parce que c'est complètement sidérant. Hein. Une fois qu'on l'a, on se demande pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler avant quand on le découvre la première fois. Ce sont des espèces d'obus gigantesques qu'on trouvait partout dans le monde. Entre eux, il y a 400 millions et 350 millions d'années. Donc on les découvre depuis 60 ans sous la forme de fossiles, bien évidemment. Et il faut voir les chercheurs se prendre en photo devant ces fossiles de prototaxites. Ce sont donc des traces, des espèces de traces dans la roche qui sont trouvées et qui sont gigantesques, qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Enfin, ils font souvent 2 mètres, pardon, mais ils peuvent aller jusqu'à 9 mètres et ils font 90 cm de large. Donc voilà, il faut imaginer des espèces d'obus plantées comme ça verticalement dans un sol qui à l'époque n'était pas encore couvert d'arbres, etc., puisque c'était à une époque où il n'y avait pas encore de forêt, une époque où la végétation était encore basse, et comme ça se dressaient des espèces de formes dont on ne sait pas à quoi elles correspondent. Alors quand elles ont été découvertes, tout au départ, par donc le découvreur, c'est John William Dawson, lui, il a tout de suite pensé à un conifère. Mais c'est une hypothèse qui a été très vite évacuée, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'arbres. Et donc, c'était difficile d'imaginer comme ça l'irruption d'une espèce d'arbre toute seule, alors qu'il n'y en avait aucune autre à côté.
De 2 mètres et de 9 mètres d'un coup, comme ça.
Voilà, ouais. Et partout dans le monde, hein, puisque je répète, donc on a d'abord trouvé un spécimen, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et en fait, on s'est aperçu que tous les continents avaient été colonisés pendant cette période de 50 millions d'années, entre eux, il y a 400 000 et 350 millions.
Une première découverte, en effet, au Canada. Et donc, cette hypothèse du conifère qui est vite évacué. Mais alors, qu'est-ce qui déroute particulièrement les spécialistes par rapport à ces prototaxites ?
Ce qui déroute les spécialistes, c'est de savoir à quel genre, on va dire, à quelle histoire, à quelle lignée ils vont appartenir, et surtout parce qu'en fait on a des doutes. On a des doutes depuis quelque temps. Et ce qui nous a amené à consacrer un article au prototaxide dans Epsilon ce mois-ci, c'est qu'il y a un chercheur qui arrive avec une nouvelle étude assez radicale et qui dit, bah en fait toutes les hypothèses qu'on avait tombent par terre et on ne peut pas classer ces prototaxides dans aucune des lignées qui existent aujourd'hui. Donc les deux hypothèses, on a parlé de l'hypothèse du conifère. Ensuite il y a une hypothèse de l'algue aussi assez vite évacuée puisque c'était pas forcément dans des milieux aqueux et que les algues ne peuvent pas survivre en dehors de ces milieux. Et puis il y a deux hypothèses qui sont restées depuis à peu près les années 2000 qui sont d'une part des champignons, donc des champignons géants, c'est pas mal comme hypothèse, et d'autre part des lichens, donc l'alliance là pour le coup d'algues avec des micro-organismes avec des champignons, ce qui permet du coup à ces algues de survivre hors de l'eau. Donc ces deux hypothèses avaient cours et ce chercheur arrive avec un nouveau type d'analyse sur un site en particulier, sur un spécimen de prototaxide particulier en Écosse, hein, dans un site qui est bien connu, et pour en receler. Et lui, il a mené une analyse un petit peu environnementale, justement, on en parlait tout à l'heure, pour essayer de comparer à la fois ce qui restait du prototaxide avec tout l'environnement autour, et essayer comme ça de trouver, on va dire, une parenté peut-être entre soit des espèces de champignons d'un côté ou des espèces de lichens de l'autre. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'il y a des anomalies dans toutes les comparaisons qu'on peut entreprendre qui sont, pour lui, radicales et qui ne permettent pas de classer ce prototaxide dans aucune des lignées actuelles.
Alors, le site en question, c'est un site, en effet, très connu, puisque on parle d'un écosystème de sources chaudes du Dévonien qui est très bien préservé. C'est aussi pour ça que cette étude a été faite là-bas.
Et donc, il faut le préciser en cours de publication. Et nous, donc, au cours de notre enquête, c'est Alexandra Pienne qui a mené l'enquête et qui a commencé par envoyer, évidemment pour vérifier la valeur de cette prépublication, le papier à différents chercheurs et différents spécialistes. Et c'était génial de voir leur réaction parce qu'en fait, pour beaucoup d'entre eux, ils ne connaissaient pas l'article. Ils sont tombés dessus, ils sont tombés de leur chaise et ils ont commencé à débattre sous les yeux d'Alexandra Pienne par mail sur « oui, non, mais non, ça peut quand même être un lichen. Ah non, 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 ça peut qu'être un champignon. » Et commencer comme ça à voir le débat scientifique s'installer sous nos yeux. Donc ça, c'était un régal de journaliste de voir ça. Et effectivement, il peut y avoir encore des débats. Il n'y avait pas de lien avec les champignons d'à côté. Donc il y a des détails techniques. Hein. Il étudie certaines des petites molécules, etc. Il voit que cette espèce d'obus gigantesque ne peut pas croître comme un champignon parce que, par exemple, le carbone qui est dans le sol ne pourrait pas lui suffire pour croître. Ce à quoi répond un autre chercheur, mais non. En fait, il pourrait tout à fait croître comme un champignon. Il faudrait juste qu'il croisse très lentement. Donc, s'il s'agit d'espèces comme ça qui vont avoir une croissance très lente, pourquoi ça ne pourrait pas être un champignon? L'autre rétorque, bah oui, mais à la fois, il faut quand même bien qu'il y ait de la photosynthèse pour quelque chose qui se dresse comme ça vers le ciel. Et puis, il y a d'autres hypothèses aussi qui peuvent laisser penser que ça pourrait être la photosynthèse, et notamment le fait que c'était l'émergence des organismes à photosynthèse à cette époque du Dévonien, justement. Et donc, tout ce débat, nous, pour l'instant, n'a pas de résolution. On reste sur les bras avec ces trois hypothèses qui sont petit 1, ce prototaxite est un champignon géant, petit 2, c'est un lichen, et petit 3, peut-être qu'il s'agit d'une lignée éteinte. Et là, on va faire une comparaison amusante, une lignée éteinte, c'est-à-dire que c'est un dinosaure. En fait, il est énorme, et donc c'est le dinosaure de la paléobotanique, dans cette hypothèse-là, c'est-à-dire une espèce énorme, gigantesque, qui a dominé le monde à une époque, et qui a totalement disparu, qui n'a pas eu de descendance.
J'adore cette idée de dinosaure botanique, de ce nouveau règne. Ce que je trouve très intéressant dans cette enquête dans Epsilon, c'est qu'on a vraiment accès à la méthodologie, à qu'est-ce qui fait débat, qu'est-ce qui fait argument, justement, quand on est face à un besoin comme ça de classification, Mathilde Fontaine.
Oui, par exemple, le contre-argument du lichen, il s'agit d'étudier la structuration de ces prototaxites et d'essayer de comprendre comment s'organisent les filaments, est-ce qu'ils sont typiques des champignons ou des lichens ou non? Et en fait, là, on trouve une correspondance avec aucun des deux. Et donc, ce sont toutes ces analyses, effectivement, assez fines qui n'avaient jamais été réalisées. C'est ce qu'est la vraie avancée de cette étude. Et sans doute qu'elle fera des petits, sans doute qu'elle permette que ce type d'analyse pourra être reproduit sur d'autres spécimens, puisque le point faible de cette étude, c'est qu'il ne s'est attaché à étudier effectivement qu'un seul spécimen. Il y a aussi un argument isotopique qui est amusant, hein, qui est celui de s'apercevoir que donc ces prototaxites ont des rapports isotopiques, donc c'est-à-dire le nombre d'isotopes de chaque sorte en gros, très divers, et ce qui irait contredire l'hypothèse qu'ils puissent se nourrir dans le sol, puisque s'ils se nourrissaient dans le sol, ils n'auraient pas cette diversité isotopique. Donc oui, ça nous amène à rentrer dans la mécanique du vivant très finement pour pouvoir dissocier et à la fin classer ces prototaxites. Et s'ils se sont éteints, puisque c'est une des hypothèses aujourd'hui depuis cette publication, ça nous fait plonger dans une autre question scientifique.
Pourquoi ?
qui est toujours cette question amusante, c'est le pourquoi. Et donc là, on en revient exactement au délire des dinosaures. Pourquoi se sont-ils éteints? Mais ils étaient si gigantesques, ils avaient l'air si bien adaptés, ils s'étaient répandus partout. Qu'est-ce qui a présidé à leur extinction? Est-ce que c'est cette période spécifique du Dévonien qui était, on l'a dit, la période durant laquelle, en gros, en l'espace d'une cinquantaine de millions d'années, on voit tout à coup les animaux sortir de l'eau, les plantes émerger à la surface des terres, puisque au début de la vie des prototaxites, les espèces hors de l'eau, disons, n'étaient que réfugiées dans les sols, et c'est à la fin de son règne, quelque part, que les animaux ont commencé à émerger en dehors du sol. L'arrivée des arbres, tout à la fin de son règne, etc. Donc on était dans une période de transition, ce qui irait plutôt du côté de l'hypothèse lichen, puisque cette période de transition semble liée à la photosynthèse. D'ailleurs, on a trouvé peut-être un petit peu des traces en bord de ces prototaxites qui, selon certains chercheurs, pourraient suggérer qu'il y avait la présence de feuilles, mais qu'on ne peut pas détecter sur les fossiles. Enfin bref.
Peut-être un organisme photosynthétique, peut-être.
Voilà, peut-être.
Alors comment faire pour y voir plus clair dans ce mystère de paléobotaniste?
On en est là en plein débat. Les études vont continuer, mais on n'a pas la réponse encore aussi épatant que ça puisse paraître pour une espèce si répandue.
Pierre Henriquet, alors votre domaine, c'est plus en effet le spatial, la physique, mais vous nous avez dit un micro mot avant de commencer ce direct sur ces prototaxites.
Ben, c'est surtout que je n'avais jamais eu connaissance d'un organisme aussi fascinant, et pourtant Dieu sait que justement nous tous qui nous intéressons à la science dans toute sa diversité et dans toutes ses nouveautés, des choses aussi spectaculaires que ça, on regrette presque. On se dit mais comment j'ai fait pour passer à côté d'un organisme aussi fascinant et d'en avoir presque jamais entendu parler. Donc ça peut arriver parfois des choses assez extraordinaires qui restent très longtemps sous le radar et qui finissent par émerger comme ça, mais en tout cas c'est absolument fascinant.
En tout cas, pour mieux saisir toute la complexité écologique de cette époque, vous pouvez podcaster notre épisode « Colonisation des plantes, les pieds sur terre » ou comment il y a environ 500 millions d'années, les plantes aquatiques ont colonisé la terre ferme. Allez, on continue après cette aventurée dans le passé, on se projette dans l'avenir avec une nouvelle technologie pour la physique fondamentale et avec la recherche de vie extraterrestre. Restez avec nous.
Les plantes de l'appartement ont soif. L'été est venu, le temps où les jardiniers s'échappent.
Les plantes, car nous sommes en direct sur France Culture et que nous venons de parler des dinosaures de la botanique. On fait le tour de l'actualité scientifique. On fait ce petit tour en compagnie de Mathilde Fontaise, journaliste scientifique, rédactrice en chef du mensuel Epsilon, Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir, notre magazine partenaire, Blaise Mao, rédacteur en chef du magazine Ouzbek Erika, et Pierre Henriquet, médiateur scientifique indépendant, passionné d'espace, connu sous le pseudo Astropierre. Or aujourd'hui, Astropierre, vous avez choisi de nous parler d'antibiotiques l'antimatière et plus exactement d'un nouveau mode de transport.
L'antimatière, c'est une matière qui aurait les mêmes propriétés ou à peu près que la matière, mais dont les noyaux seraient constitués par des antiprotons et des antineutrons, alors que les noyaux ordinaires sont constitués par les protons et les neutrons. Et autour de ces antinoyaux, il y aurait des électrons positifs, c'est-à-dire des antiélectrons, alors que dans notre matière, ce sont de bons protons et de bons neutrons qui sont entourés de braves électrons négatifs.
Avant de parler de l'antimatière, il convient donc peut-être de dire quelques mots des antiparticules qui la constitueraient.
Bien, l'antimatière, ce sont les antiparticules. On assemble les particules sous forme de matière. On peut aussi imaginer d'assembler les antiparticules sous forme d'antimatière. La première chose était l'électron positif, les électrons. Les électrons, ce sont, si vous voulez, des particules, mais enfin, ce ne sont pas des particules au sens puissant du mot. Le sens puissant du mot, c'est au fond, nous en venons toujours à la balance et à la mesure de la masse par des chimistes, par notre balance de cuisine, quand nous avons un poids, quelque chose, un morceau de viande, une balle, on peut mesurer sa masse, c'est formé alors de matière. La matière est tout de même reliée, dans notre esprit un peu retardé, à de la masse. Alors on sera très rassuré le jour où on aura fait de l'antimatière sous une forme pondérable, quelque chose que l'on puisse peser, qui était vraiment une masse.
Voilà un extrait de l'émission Aux portes du monde et la voix de Louis Le Prince Ringuet, directeur des laboratoires en physique nucléaire à l'École Polytechnique et au Collège de France sur la RDF en 1963. Alors Pierre-Henriquet, comment souhaiteriez-vous compléter les mots de ce physicien ? Qu'est-ce que l'antimatière et quelles sont justement les grandes énigmes en cosmologie que pose l'antimatière ?
Alors c'est vrai que l'antimatière est là encore dans l'esprit du grand public une aura de mystère largement alimentée par les œuvres de pop culture, de science-fiction qu'on peut lire ou voir sur grand écran, alors que pour les physiciens, l'antimatière c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on connaît très bien même, qu'on étudie régulièrement depuis un siècle maintenant. L'antimatière, c'est effectivement, comme disait Louis Le Prince Ringuet, une classe de particules presque identique à la matière ordinaire, mais avec certaines propriétés physiques qui sont opposées à la matière. Par exemple, si un électron a une charge électrique négative, un anti-électron a une charge électrique positive. Le problème principal avec l'antimatière, c'est que dès qu'une particule touche son antiparticule miroir, elle s'annihile toutes les deux dans un grand flash d'énergie. Et du coup, dans notre monde fait quasi exclusivement de matière, il est très difficile de créer et surtout d'isoler de l'antimatière pour qu'elle survive assez longtemps pour qu'on puisse l'étudier. Alors pourquoi est-ce qu'on l'étudie ? Il y a plein de questions absolument fascinantes sur l'antimatière. Certaines qui sont un peu insolites. On va parler justement de ce qui se passe au CERN actuellement, au laboratoire européen pour la physique des particules à côté de Genève. Il y a plusieurs expériences qui étudient l'antimatière et qui essayent de répondre à différentes questions. Il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une expérience qui s'appelle GEBAR au CERN et qui vise alors à répondre à une question très simple qui est: comment l'antimatière réagit lorsqu'elle est soumise à la gravité ? Est-ce que l'antimatière tombe vers le bas, comme la matière classique ?
Ou est-ce qu'elle anti-tombe ?
Exactement, est-ce qu'elle anti-tombe, c'est-à-dire qu'elle tombe vers le haut ? Ça, on n'en sait rien. Quand on essaie de faire un peu de physique théorique là-dessus, il y en a certains dont les résultats des calculs nous disent que ça va partir d'un côté et d'autres, ça va partir de l'autre. Et la seule solution, ça va être de créer de l'antimatière et puis de l'observer tomber pendant quelques microsecondes et de voir où est-ce que ça passe. Donc on a des questions comme ça qui sont alors plutôt théoriques, parce que c'est pas demain qu'on va jouer avec une balle antimatière, mais qui sont intéressantes. Et puis d'autres qui sont vraiment fondamentales, qui remontent jusqu'à notre existence même dans l'univers, et je pense que c'est le point sur lequel vous vouliez me faire revenir, c'est que un des grands mystères dans l'étude de l'univers tout entier, c'est que justement, comme je le disais, il est composé quasi exclusivement de matière. Or, dans nos expériences de physique, on observe que la création d'une antiparticule est systématiquement associée à la création d'une particule. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de la matière sans créer de l'antimatière. Et du coup, la question devient, où est passée l'antimatière qui a dû être créée en quantité égale à la matière au début de l'univers ? Alors, il y a plein d'hypothèses qui sont faites. Celle qui est la plus en vogue, c'est que l'antimatière est bien apparue en même temps que la matière au début de l'univers, très très peu de temps après le Big Bang, mais que pour des raisons qui restent à comprendre, eh ben, l'équilibre entre les deux a été légèrement rompu, c'est-à-dire qu'un tout petit peu plus de matière aurait été créé. Ensuite, bah, toute la matière s'est annihilée avec l'antimatière, et ce très léger surplus de matière, eh bien, il est devenu tout ce qui existe aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'univers serait rempli de matière. C'est pour ça qu'il existe la quantité d'expériences qui essayent d'observer cette infime, on appelle ça asymétrie matière-antimatière, qui est probablement à l'origine de notre propre existence, à nous et tous les astres de l'univers.
Et parmi ces expériences, Pierre Henriquet, on a donc cette expérience BASE du CERN qui vise à répondre justement à cette question où est passée l'antimatière et qui vise à y répondre en mesurant très précisément les propriétés des antiprotons.
Exactement. On reste sur le même principe, hein, c'est-à-dire que on essaye de regarder qu'est-ce qui différencie la matière de l'antimatière, d'abord pour mieux la comprendre elle-même, mais ensuite pour répondre à ces questions comme l'asymétrie matière-antimatière, des violations de symétrie, des choses assez théoriques, mais qui expliquent littéralement le monde qui est autour de nous. Donc effectivement, cette expérience BASE au CERN, donc le nom c'est Baryon Antibaryon Symmetry Experiment, donc on essaye de regarder justement cette brisure de symétrie entre matière et antimatière. On travaille beaucoup par exemple avec les protons et les antiprotons, on crée des antiprotons. Bon, des protons, il y en a partout dans la matière, donc ça, c'est pas difficile à trouver. Et après, eh ben, on va essayer de mesurer, on piège les antiprotons qui sont produits en sortie de l'accélérateur, on les ralentit, on les isole parfaitement du reste du monde pendant des temps suffisamment longs pour en étudier les propriétés et pour essayer de voir si justement certaines propriétés diffèrent légèrement, sensiblement entre ces deux matières opposées dont on a une en très grande quantité et l'autre en très petite quantité. Donc c'est pour ça qu'il faut, on cherche depuis pas mal de temps.
Donc voilà, il y a cette expérience BASE et puis le CERN vient aussi donc d'organiser une autre expérience, le BASE STEP, un outil qui permet de transporter de l'antimatière. Alors avec tout ce que vous venez de nous décrire sur les comportements de l'antimatière au contact de la matière, on peut vraiment parler d'un exploit.
Oui, tout à fait. C'est un véritable exploit. C'est assez fascinant. Au CERN, donc au sein de cette expérience BASE, on teste de nouveaux dispositifs qui permettront prochainement de transporter et de livrer de l'antimatière toute fraîche dans tous les laboratoires de recherche qui en ont besoin pour leurs travaux. Et c'est ça la nouveauté, c'est-à-dire que actuellement, dans BASE, la taille des machines nécessaires pour piéger cette antimatière, cette taille, elle est énorme. Cette expérience, elle occupe la taille d'un hangar et elle se situe en plus juste à côté d'une des sorties de l'accélérateur. Et ce sont là justement les deux problèmes que cette nouvelle expérience va essayer de résoudre. Premièrement, justement, les équipements de l'accélérateur dans la salle où est produite l'antimatière, eh bien, elles génèrent des perturbations électriques, magnétiques. Et ces perturbations, elles limitent très fortement la précision des expériences qui sont menées sur ces particules. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir prendre cette antimatière et l'emmener dans d'autres laboratoires au calme, où là, des expériences de haute précision pourraient être menées. L'un des endroits, par exemple, qui attend avec impatience cette livraison d'antimatière, c'est l'université Heinrich Heine de Düsseldorf, qui est à 800 km de là et qui possède du matériel de haute précision. Mais pour ça, deuxième problème, il faut miniaturiser toute cette installation de pièges antimatière pour passer de la taille d'un hangar à celle d'un gros frigo pour la transporter facilement. D'où la construction de ce prototype de piège antimatière, donc BASE STEP, qui fait seulement 900 kg, tout compris, et qui a récemment testé, chargé sur un camion et transporté sur les routes du site de Mérin au CERN et pour vérifier si on peut enfin avoir un système qui garde cette antimatière, je dirais, au frais, bien isolée et qui résiste au chaos de la route, qui résiste au transport. Et donc c'est ça qui est vraiment révolutionnaire, c'est que on peut miniaturiser une installation entière en quelque chose de suffisamment petit pour maintenir de l'antimatière isolée du monde sur un système compact et qui permettra maintenant de l'emmener un peu partout.
Ouais, ce qui est assez étonnant dans cette expérience et dans ce cas-là, c'est que cette livraison d'antimatière, finalement, le gros problème, c'est pas tant les imperfections du bitume ou les petites bosses, finalement, c'est le gros souci, c'est les embouteillages.
Oui, ça c'est Christian Smora, le responsable justement de BayStep, qui nous disait que son principal obstacle, c'est les embouteillages. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, si le transport prend trop de temps, eh ben on va finir par manquer d'hélium liquide. En fait, tout ce système fonctionne parce que l'antimatière, où on peut y piéger aussi des particules de matière, hein, il y a plein de choses qu'on peut piéger là-dedans, eh bien ça repose sur le principe d'un piège électromagnétique. Donc en gros, on a des aimants un peu partout qui vont faire flotter les particules au milieu sans toucher le bord de la paroi. Mais pour que ces aimants fonctionnent, eh ben ces aimants supraconducteurs, ils nécessitent d'être à des températures inférieures à 8 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc on est à moins 265 degrés Celsius. Donc il faut que ces aimants soient maintenus à une température extrêmement froide. Donc ils sont refroidis avec de l'hélium liquide. Et si le transport dure trop longtemps, si jamais la voiture ou le camion se trouve dans les embouteillages, eh ben l'aimant chauffe jusqu'à n'être plus supraconducteur, le champ magnétique est perdu et les particules piégées sont libérées et disparaissent dès qu'elles touchent la paroi du dispositif, puisque tout ça c'est fait de matière. Donc effectivement, c'est le temps pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser pendant un temps très très long, c'est ça qu'il va falloir améliorer.
Voilà, se faire livrer de l'antimatière à domicile, on imagine que ça va ouvrir la voie à de nouvelles possibilités d'études. Tout ça nous a aussi mis en appétit pour notre prochaine émission consacrée à Paul Dirac, le père de l'antimatière. Une émission qui aura lieu mercredi prochain. On continue notre Club Actu, on se projette dans l'avenir et dans l'espace. Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD. Natacha Trioux.
En direct sur France Culture, on fait le tour des sciences, de leur actualité, mais aussi de leur devenir, avec la revue Uzbek Erika, qui va consacrer début juillet une grande enquête sur les différents projets de détection de la vie extraterrestre. Vie extraterrestre, bientôt l'heure des preuves. Une enquête qui s'ouvre sur ce clin d'œil.
Dis papa.
Oui.
Tu crois qu'il y a des gens sur les autres planètes ?
Je ne sais pas, opératrice. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il n'y a que nous, ça me semble un beau gâchis d'espace.
Ce sont des premiers. 2, 3, 5, 7, ce sont tous des nombres premiers. Ça ne peut pas être un phénomène naturel. Bon, restons calmes surtout. Trouve-moi vite le dossier sur Vega.
Ça n'a vraiment aucun sens. Ce système est trop jeune. Il ne peut pas y avoir un système planétaire.
Les cœurs ne parlent
pas de vie. Ils ne parlent pas non plus de civilisation technologique.
Peut-être qu'ils ne vivent pas là. Peut-être qu'ils sont juste en visite. Je ne sais pas.
Bon, alors un vaisseau spatial ? Non, ce système est plein de débris. Il aurait été pulvérisé.
La rumeur se répand comme une traînée de poudre. Les implications sont extraordinaires. Le repérage ce matin d'un signal radio non identifié provenant de l'espace ne peut être ni confirmé ni démenti. Mais l'importante présence militaire qui arrive derrière moi semble indiquer des autorités qui mènent relativement
une forme de créature intelligente vivant en dehors de notre propre système.
Un extrait du film Contact, sorti en 1997, signé Robert Zemeckis avec Jodie Foster. Alors, Jodie Foster, dans ce film, Blaise Mahaut travaille au programme SETI. Le programme SETI, ce n'est pas de la science-fiction.
Non, c'est ça qui est intéressant avec ce film. C'est qu'effectivement, Jodie Foster est chercheuse au SETI, donc le Search for Extraterrestrial Intelligence, hein, qui est un organisme de recherche relié à la NASA et puis qui bénéficie aussi de plein de fonds privés. Qui depuis les années 60 effectivement travaille sur la détection de signaux radio exactement comme dans le film. Alors dans le film ça marche, mais c'est effectivement un programme intéressant où travaille Nathalie Cabrol d'ailleurs, notre exobiologiste franco-américaine, pour le moment cocorico, qu'on a interviewé justement dans cette enquête de Pablo Maillet, où on s'interroge effectivement sur la question des preuves de vie extraterrestre qui vont probablement arriver, on l'espère en tout cas, plus tôt que par un signal radio comme dans Contact, plutôt parce que les sondes qu'on a pu déjà envoyer dans l'espace observent et qu'on va peut-être pouvoir ramener ces preuves dans les prochaines années. On sait hein, aujourd'hui que c'est possible, voire probable, que l'univers abrite d'autres formes de vie, mais la question c'est de les détecter, et donc c'est vraiment ces indices physiques, physico-chimiques, on va dire, que peuvent nous renvoyer les sondes qui comptent, et la meilleure candidate pour ça, c'est Mars.
C'est Mars sur qui, en effet, on a envoyé tout un tas de rovers et de missions pour essayer d'explorer hein, cette possibilité d'une vie, mais une vie plutôt passée. C'est plutôt là l'espoir
exactement.
Qu'on danse non pas sur une véritable alien vivant ou même peut-être de bactéries. Elle
non,
passe
non.
Encore, même pas.
Pas de petits gris, pas non. De petits verres. Là, on sait qu'il y a eu de l'eau. Il y a de l'eau sur Mars sous la forme de glace sous les pôles, et il y a des indices qui suggèrent la présence d'eau sous forme liquide quand Mars était très jeune, hein, ce que nous confirme Guillaume Chavreau de l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Depuis 15 ans, il y a donc nos petits rovers adorables Perseverance et Curiosity qui débroussaillent le sol martien. Et l'idée, c'est comment on va ramener en fait les échantillons du sol martien. Et ça, c'est un projet intéressant qui s'appelle Mars Sample Return, hein, MSR. Donc ça, c'est une mission qui est très compliquée, qui est développée par la NASA en collaboration avec l'ESA, l'agence européenne, mais ça coûte très très cher. Donc là, ils sont en train d'essayer de se tourner vers des fonds privés aussi. C'est une mission, le coût est estimé à 11 milliards de dollars, donc c'est pas pour tout de suite.
Puis ça vient d'être mis en difficulté également par les dernières annonces de Donald Trump.
Évidemment, remis en question par le contexte politique, géopolitique. Et c'est une mission essentielle, puisqu'elle doit permettre de déterminer la chronologie de l'évolution de Mars, d'estimer la possibilité d'une forme de vie détectée, qu'elle soit encore présente ou qu'elle ait été présente il y a environ 4 milliards d'années, autant dire hier, à l'échelle qui est celle de l'exploration spatiale. Et puis il y a un horizon très proche là qui suscite aussi beaucoup d'espoir, c'est 2028 avec le rover dans le cadre de la mission ExoMars, Rosalind Franklin, hein, un autre rover qui lui va chercher des traces de vie passée en creusant jusqu'à 2 mètres sous la surface de Mars. Et là l'objectif c'est d'identifier on va dire une forme d'organisation moléculaire, voire un métabolisme martien à part entière, un ensemble de réactions chimiques propres. Et pour ça, il va falloir tester ce qu'on appelle la chiralité. Donc la chiralité, mot compliqué, qui en fait définit, c'est une notion un peu complexe, c'est quand deux formes moléculaires sont en tout point semblables, mais qu'on ne peut pas les superposer, puisqu'elles sont en fait des images miroirs différentes. Par exemple, prenez vos mains, c'est comme s'il y avait un miroir entre vos mains. Il y a un effet de réflexion, mais on ne peut pas superposer ses mains, c'est impossible, jusqu'à preuve du contraire. Donc cette propriété, on la retrouve un peu partout dans notre univers, à toutes les échelles aussi, c'est ça qui est intéressant. Et en général, une forme est favorisée par les organismes vivants dans l'ADN ou les acides aminés, par exemple. Donc là, il va falloir trouver sur Mars ce qu'on appelle la favorisation chirale. Et ça, c'est Hervé Cotin, qui est professeur à Paris-Est Créteil et spécialiste en exobiologie, hein, qui en parle bien. Et lui, il y croit bien. Il dit, même moi qui suis très dur en matière de traces de vie et très sceptique, j'y vois quelque chose de très intriguant. Ça serait toujours pas une preuve définitive de vie, mais on s'en rapprocherait assurément. Donc ça, c'est la chiralité, la favorisation chirale, pardon, qui est la grosse zone d'espoir en ce qui concerne Mars.
On a Mars, mais toujours dans notre système solaire, on a aussi d'autres candidates favorites pour retrouver des signes ou des des biosignatures de traces de vie extraterrestre, Blaise Mao.
Absolument. D'horizon plus liquide cette fois que le sol martien. On sait qu'il y a des lunes glacées de Jupiter, donc Europe et Ganymède, hein, ces deux lunes. Et puis celle de Saturne aussi, Encélade et Titan, sur lesquels il y a aussi beaucoup d'espoir. On est quasiment sûr qu'elles abritent des océans liquides sous des couvertures de glace qui font pour certaines plusieurs dizaines de kilomètres. Et dans le cas d'Europe et Encélade, on pense que ces océans pourraient être en contact avec la roche, avec le manteau rocheux local, et donc signe de potentiel geysers et de volcans sous-marins. Il faut savoir, on sait, hein, sur Encélade, on a observé des geysers de vapeur d'eau constitués de sel et de matière organique qui sont des éléments constitutifs de formes de vie. On a découvert de l'hydrogène moléculaire aussi plus récemment. Donc, Encelade, par exemple, est vraiment un territoire intéressant. Mais de quelle vie on parle ? Parce qu'elle se développerait à 100% dans les océans, sans le moindre apport d'énergie lumineuse. Donc pas de photosynthèse, et donc il va falloir imaginer une autre forme de vie. Là aussi, deux missions intéressantes, la mission Clipper de la NASA, la mission JUICE de l'ESA, et puis une autre sonde qui devrait être lancée d'ici un peu plus de temps vers l'océan subglaciaire d'Encelade, donc la lune de Saturne.
C'est intéressant, c'est cette idée de volcan sous-marin, parce que ça en tout cas sur d'autres astres, puisque ça évoque les fumeurs noirs, hein, les sources hydrothermales terrestres qui existent.
Les sources de la vie de notre propre planète.
Voilà, mais qui existent dans la grande profondeur, au niveau des abysses, et dans laquelle la vie a trouvé un chemin différent, hein, puisque la photosynthèse a été remplacée par une chimiosynthèse, où c'est la matière minérale qui sert à fabriquer la vie. Donc si cette imagination a été possible sur Terre ou plutôt sous l'eau, effectivement, tout est possible sur Titan, pourquoi pas, ou Encelade ou Ganymède.
Voilà, sur imaginer une vie extraterrestre abyssale, moi tout ça me laisse évidemment rêveuse. On parle de notre planète et puis on cherche aussi dans ce domaine-là des terres, ou plus exactement des super terres dans le domaine exoplanétaire, Blaise Mahou.
Absolument, les fameuses exoplanètes habitables, voire super habitables. Des exoplanètes, on en a identifié plusieurs milliers, hein, environ 6000, j'ai plus le décompte exact, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il s'agit surtout de les identifier, de les caractériser. Est-ce que c'est des exoplanètes chaudes, froides ? Est-ce qu'elles sont lointaines, proches ? Comment elles sont composées chimiquement ? Et il faut d'abord trouver un objet relativement tellurique, avec une surface solide. Ensuite, on regarde si cet objet a les conditions de pression et de température qui peuvent être favorables à la présence d'eau liquide. Et enfin, si seulement toutes ces conditions sont remplies, on pourrait éventuellement se mettre en quête de molécules qui indiquent une activité prébiotique quelconque. On en discute avec Lucie Le Bouleux du CNRS, qui explique bien ces différentes étapes. Et en fait, elle nous explique que les instruments actuels, la spectrométrie qui est utilisée pour repérer, caractériser ces exoplanètes, elle ne suffit pas encore à aller vraiment plus loin. Elle parle d'une prochaine génération d'instruments qui sont attendus d'ici 20 ans, qui vont permettre d'aller sur des objets à l'observation et au repérage beaucoup plus petit, et de repérer potentiellement des exoplanètes aussi beaucoup plus tempérées, et pas seulement les géantes chaudes qui sont proches de leur étoile, qu'on arrive aujourd'hui à identifier. Donc là aussi, deux projets passionnants à suivre. Le projet Plateau, je vous définis pas l'acronyme, mais c'est qui va être lancé fin 2026 pour recenser de nouvelles planètes telluriques autour d'étoiles de type solaire. Et puis le projet ELT, Extremely Large Telescope, là c'est un projet d'observation terrestre, où depuis Atacama, depuis le Chili, on va pouvoir beaucoup mieux observer certaines exoplanètes, et notamment notre petite voisine, notre grande voisine, Proxima Centauri B, pour identifier si elle est ou non pourvue d'une atmosphère.
Et si, auquel cas, elle l'est, pouvoir examiner dans le détail sa composition. On arrive à la fin de cette discussion, mais Blaise Mahou, comment définir une notion aussi large que la vie, surtout en dehors de notre propre contexte terrestre ? Et puis concrètement, quelles seront les prochaines grandes étapes à surveiller ?
Ben, c'est ça, c'est qu'on a parlé d'exoplanètes super habitable, c'est totalement anthropocentré comme manière d'envisager la vie. Et c'est ça qui est intéressant chez les exobiologistes, c'est qu'il y a beaucoup d'humilité dans la définition qu'ils donnent de la vie et du vivant, enfin, de la vie extraterrestre en l'occurrence. C'est pas simple dans l'espace de trouver ce fameux cocktail d'oxygène, méthane, qui est présent dans notre atmosphère. Donc, la définition que donne Nathalie Cabrol, que je citais, hein, du SETI, elle dit c'est la définition de la vie utilisée pour l'exploration spatiale implique des fonctions physiologiques telles que l'homéostasie, un état d'équilibre relatif entre des éléments interdépendants, l'organisation, le métabolisme, la croissance, l'adaptation, la réponse aux stimuli et la reproduction. Et elle ajoute aussi un facteur important qui est la capacité des cellules à recevoir, traiter et transmettre des signaux en son sein et dans l'environnement extérieur. Et donc, définition très longue, mais définition très honnête et qui nous oblige à un peu d'humilité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle plus de détecter des traces de vie en soi que d'arriver à savoir s'il en existe vraiment.
Voilà, et attention aux effets d'annonce. Merci à vous quatre de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, c'est la chronique avec science.
Comment les humains préhistoriques ont-ils tiré parti des ressources marines ? À la fin du Paléolithique, nos côtes ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on trouve maintenant. Nous sommes dans la période dite du Magdalénien, qui commence il y a 21 000 ans. C'est la fin d'une période glaciaire, le niveau marin est d'environ 120 mètres sous le niveau actuel, et donc les côtes du golfe de Gascogne sont reculées de plusieurs kilomètres. Évidemment, aujourd'hui, ces zones qui ont été habitées par de très lointains ancêtres sapiens sont englouties, ce qui a pendant longtemps biaisé notre regard sur la proximité de l'humain avec la faune marine. Jean-Marc Pétillon est préhistorien et chargé de recherche CNRS dans le laboratoire Trace à Toulouse.
L'image classique pendant longtemps, ça a été effectivement celle de chasseurs de l'intérieur des terres, en fait, qui vivent essentiellement de la chasse au cheval, au bison, au renne, au cerf, au bouquetin, qui sont les principaux gibiers à cette période dans cette région. Depuis une vingtaine d'années, on se rend compte que cette image, qui est vraie par ailleurs, on n'a pas inventé ça, elle est aussi biaisée par cette remontée du niveau marin qui a détruit ou englouti toutes les régions côtières. Il faut dire aussi que quand ils vont dans des grottes pour peindre ou graver, bah, ils ont peint essentiellement des bisons et des chevaux, donc ça a aussi renforcé cette image de gens d'intérieur. Mais on se rend compte que c'est aussi des gens qui fréquentaient le littoral, et par chance, il y a une partie des produits d'origine littorale qui ont circulé et qui ont été déplacés à l'intérieur des terres. Et donc c'est grâce à ces objets-là, qui sont donc des indices indirects de fréquentation de la côte, qu'on peut aujourd'hui reconstituer une partie de ce qu'ils faisaient quand ils allaient au bord de la mer.
On avait déjà plein d'indices de l'utilisation de produits de la mer à la fin du Paléolithique, notamment des coquillages, de la pêche de poissons, des restes d'oiseaux marins et des os de baleines taillées en pointe de projectiles. Mais à quelles espèces appartiennent précisément ces os de baleines ? Quel âge ont-ils et à quelle période ont-ils été taillés ? Pour répondre à ces questions, il faut gratter un peu la surface des outils pour avoir accès au collagène, et c'est la raison pour laquelle il a fallu attendre que l'on dispose de techniques très efficaces pour limiter au maximum la dégradation de ces outils précieux, dont la majorité a été découverte il y a une quinzaine d'années. Dans cette nouvelle étude parue dans Nature Communications, et dont ce chercheur est le dernier auteur, plus de 70 outils provenant de sites au sud-ouest de la France et au nord de l'Espagne ont été analysés, mais aussi 60 morceaux de vertèbres et de côtes de baleines qui n'ont pas été taillés. Résultat, il y a plusieurs espèces distinctes de cétacés, deux outils très anciens et une mode qui n'a duré qu'un temps.
On se retrouve avec au moins 5 espèces de grands cétacés. Il y a du cachalot, du rorqual, de la baleine grise, de la baleine bleue et de la baleine franche ou baleine boréale. Ça, c'est deux espèces qui sont très proches et que notre méthode ne permet pas de distinguer, qui donnent un petit aperçu de la biodiversité des baleines dans le golfe de Gascogne à cette époque. On a dans notre échantillon deux pièces qui sont jusqu'ici les plus anciennes, qui sont autour de 20 000, donc à peu près 2 millénaires plus anciens que ce qu'on pensait. En termes de chronologie, l'autre chose qui nous a surpris, c'est que moi, je m'attendais à des objets relativement dispersés, étalés dans le temps. En fait, on se rend compte qu'il y a une période un peu de pic de production de ces objets, dans laquelle l'essentiel de nos pièces ont été datées, qui est entre 17 500 et 16 000 avant le présent. Donc c'est vraiment la période où ces pièces sont fabriquées et diffusées de la façon la plus large. Et ça s'arrête assez abruptement après 16 000, pour des raisons qu'on a du mal à expliquer d'ailleurs encore à l'heure actuelle.
Pourquoi le façonnage d'outils en os de baleine s'arrête-t-il brutalement ? Est-ce que ça passe simplement de mode ? Ou alors est-ce que ces os cessent d'être transportés vers l'intérieur des terres ? Car on le rappelle, ce qui nous reste ici est en réalité assez éloigné des côtes de l'époque. Pour l'instant, on ne le sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il ne s'agit pas de chasse à la baleine. Toutes ces espèces identifiées ici vivent en haute mer. Elles existent d'ailleurs encore à l'heure actuelle. Mais il n'y a pas de preuves matérielles de navigation maritime en Europe de l'Ouest il y a 20 000 ans. Et donc, il est très peu probable que les humains de cette période disposent des capacités pour les chasser. Ces os proviennent très certainement d'animaux échoués ou de carcasses ramenées par la mer. Nos ancêtres ont sans doute profité de l'occasion pour se nourrir, récupérer la graisse et les fanons. Étudier ces vestiges, finalement, c'est mieux comprendre l'écologie des baleines de cette fin du Paléolithique, leurs interactions avec les humains et plus largement la manière dont Sapiens s'est adapté à la vie en bord de mer.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfrance, Céline Lozel, Louanger, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Dali Yaha. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.